marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
9 mai 1945, la grande guerre patriotique sacrée dans la Russie de Poutine.
Ici Moscou. Nous sommes en direct sur la place Rouge. Nous allons assister au défilé militaire.
La plus grande fête de notre pays, la victoire sur le fascisme.
8 mai, 9 mai, les alliés occidentaux d'une part, l'URSS d'autre part, ont toujours célébré à un jour de distance la victoire sur les nazis. Dès 1946, Staline a cependant supprimé le défilé militaire. Pour lui, la révolution d'octobre, le 1er mai, revêtait davantage d'importance. Le grand effort patriotique commun de 41-45 avait eu sa nécessité, mais le primat devait revenir aux acquis du communisme. Sous Poutine, le langage a changé. Les terribles luttes idéologiques du XXe siècle entre rouge et blanc ne sont plus de saison. C'est la Russie millénaire qui l'a emportée. La Russie qui garde la foi en elle-même et doit retrouver son espace naturel. S'il y a toujours des fascistes, ce sont ceux qui contestent cette vocation éternelle de la Russie. Le 9 mai, qui est devenu la cérémonie la plus importante de l'année, commence par un défilé militaire qui se veut chaque fois plus impressionnant. Mais les armes ne suffisent pas, il faut aussi les larmes. Le défilé est prolongé à partir de 15h par un cortège des civils où chacun est invité à porter le portrait d'un de ses morts. Poutine, le premier, affiche la photo de son père, un soldat comme les autres qui a donné sa vie à la patrie. Les disparus, ainsi associés aux vivants, forment le régiment immortel. L'année passée, ils étaient peut-être 10 millions à le composer à travers tout le pays dans un grand concours de drapeaux russes et aussi soviétiques. Et dans 80 autres pays, 12 villes en France, les Russes de la diaspora les imitent. Les images que les télévisions officielles diffusent des heures durant peuvent avoir des aspects bon enfant, mais il faut entendre les hymnes qui y sont repris. C'est eux qui donnent sens et on ne peut pas dire qu'ils invitent à la paix. La paix qu'au moins, pendant la guerre froide, on avait pris l'habitude d'invoquer mécaniquement. Mais les automatismes ont changé.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Galia Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Co-directrice d'un colloque, les actes sont publiés chez l'Harmattan, la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire politique russe, et puis un livre sous votre seule signature aux éditions Premier Parallèle, intitulé justement « Le régiment immortel ». Alors vous avez passé votre enfance à Moscou avec un tempérament très vite critique, même si vous admiriez la virilité de Fidel Castro et les exploits de Gagarine. Votre professeur vous a exclu de la classe à 15 ans pour...
un regard non soviétique.
Ouais. Et puis c'était votre meilleur ami qui vous avait dénoncé ce genre-là.
Oui, je l'ai appris 50 ans plus tard et il a avoué, en fait, pour ses vieux jours, il ne voulait plus porter ce fardeau.
Il y a beaucoup de vous dans ce livre chez Premier Parallèle. Vous dites que vous avez refusé de redevenir citoyenne russe, ce qui vous aurait été possible?
Oui, dans les années 90, sous Yeltsin, c'était possible.
Mais aujourd'hui, c'est de la mémoire de la guerre que nous allons nous entretenir en ce jour anniversaire. Dans votre enfance, dans Moscou, il y avait partout, dites-vous, des samovars. Qu'est-ce que c'est qu'un samovar ?
Vous savez, la Russie, l'Union soviétique plus exactement, a perdu, selon les données officielles, entre 26 et 27 millions de personnes. Mais quand on dit des morts, il y a toujours beaucoup plus de blessés. Bien sûr, dans ces 27 millions, il y avait peut-être 8 ou 9 millions de militaires qui sont morts. Le reste, c'était la population civile. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait, en fait, le décompte. Mais si on prend même le chiffre comme 8 ou 9 millions de morts sur le champ de bataille, généralement le ratio des blessés est 2 ou 3 fois plus important. Et donc il y avait beaucoup de gens qui ont été amputés de 2 extrémités, voire de 4 extrémités. et qui n'ont pas reçu beaucoup d'aide de l'État, qui a abandonné ces gens, qui ont souvent été aussi abandonnés par leur famille, et qui se déplaçaient, ceux qui avaient les bras, parce que ceux qui n'avaient plus rien du tout, qui étaient amputés de leurs quatre membres,
étaient immobiles,
et ceux qui avaient encore les bras, ils se déplaçaient sur des chariots de confection artisanale. Et comme ils étaient petits, quand on n'a pas de jambes, le reste du corps est petit, donc ils mendiaient, ils buvaient, ils dormaient dans des gares, et puis on les appelait des samovars. Et puis un beau jour, ils ont disparu parce que l'État soviétique a décidé qu'il valait mieux les éloigner des grandes villes.
On sait ce que ça veut dire, votre regard non soviétique, quand on écoute le récit que vous faites. Vous êtes non soviétique aussi quand vous rappelez un certain nombre de faits qui ont précédé l'invasion par Hitler en 1941. Moi, j'ignorais qu'il y avait eu une parade militaire l'été 1939 à Brest-Litovsk à l'occasion du partage de la Pologne entre l'Allemagne nazie et la Russie de Staline.
Oui, il y avait une parade militaire conjointe, et vous savez, le pacte Molotov-Ribbentrop, une fois qu'il a été signé, les nazis et les soviétiques, chacun, ont attaqué Pologne à quelques jours de distance. En fait, c'était pas en été, un peu plus tard, parce que l'attaque a eu lieu en septembre. Et donc, ils ont partagé la Pologne. Et ils ont très étroitement collaboré en général pendant 2 ans, y compris, donc ils ont fait cette parade militaire, mais y compris aussi des faits comme les antifascistes allemands qui ont trouvé refuge en URSS, y compris des juifs, ont été livrés à la Gestapo par le NKVD. Donc c'était une vraie collaboration, main dans la main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas en parler ou diminuer l'importance de cette collaboration. Et c'est pour ça aussi qu'on répète toujours que l'attaque des troupes d'Hitler contre l'Union soviétique a été perfide. Parce que, bien sûr, on ne l'attendait pas de la part d'un allié.
Mais on attendait que les troupes de l'armée rouge résistent au moment de l'opération de Hitler, un petit peu sur le modèle fourni par le prince Alexandre Nevsky. C'est un film fameux d'Eisenstein avec une musique de Prokofiev de 1938. Le prince, par deux fois, en 1240 et en 1242, a fait rempart contre les envahisseurs.
Les troupes sont derrière le lac. Regardez, prince. Il faut se dépêcher, prince. C'est vrai, prince. Tant que le soleil ne s'est pas levé, on a le temps de se retirer sur notre rive du lac. C'est plus facile que de se battre sur la rive indigène.
Si vous n'avez pas la force pour vous battre sur une terre étrangère, vous n'en aurez pas pour vous battre chez nous. Non, on va se battre dans un pays étranger. Je ne permettrai pas aux chevaliers teutoniques de pénétrer les terres russes.
Enfin, il y a des points qui ont tenu. On parlait de Brest, Litovsk.
Oui, je dirais encore une petite chose, c'est que ce film Alexandre Nevsky, qui a été commandé à Eisenstein et qui est sorti en 1938, est donc clairement dirigé contre Hitler, contre les nazis. Dès la signature de ce pacte, a été retiré de la circulation temporairement, et par contre, on a proposé au même Eisenstein de mettre en scène Valkyrie de Wagner au Bolchoï.
Ce qu'il a dû faire. Et je disais, quelques points ont tenu.
Oui, quelques points ont tenu. En effet, comme cette forteresse de Brest, à la frontière biélorusse, les troupes nazies donc ont déferlé, et cette forteresse tenait toute seule pendant encore quelques jours. Et finalement, ils sont morts tous jusqu'au dernier. Et il y avait des inscriptions. Aujourd'hui, Poutine a rappelé ce fait dans son discours avant le défilé militaire en disant « Voilà l'exemple dont il faut s'inspirer de, par exemple, ce graffiti sur un mur de la forteresse de Brest. Je suis en train de mourir, mais je ne me rends pas. »
Pour le redressement, vous expliquez ça longuement dans votre livre chez Premier Parallèle. Il suffisait pas de continuer à faire appel à l'idée communiste. pour rassembler davantage, il fallait dépasser ce seul idéal.
Il fallait dépasser. D'ailleurs, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, Staline lui-même a mis un peu de côté l'idée communiste et a fait appel plutôt au patriotisme russe. Et là, bien sûr, on ne peut plus faire appel à l'idée communiste parce que le communisme s'est terminé. Et donc, on est revenu avec Poutine à une version de l'histoire où la période soviétique est célébré, mais sous signe de patriotisme en écartant l'idée communiste.
Mais le défilé que vous avez observé à la télévision ce matin, qui a duré très longtemps, il n'a pas toujours été célébré après la fin de la Deuxième Guerre. Il l'a été en 1945, le maréchal Joukov, héros de l'Union soviétique. D'ailleurs, ce jour-là faisait allusion très clairement aux alliés occidentaux, ceux qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les cérémonies de Poutine. Les alliés, les grandes puissances, leur nom est rappelé, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont mis fin au nazisme. Joukov était celui qui avait reçu la capitulation allemande. 46, plus de défilé, plus de Joukov d'ailleurs, qui est écarté, et le défilé ne va reprendre que beaucoup plus tard.
Le défilé va reprendre seulement en 1965, c'est-à-dire ce n'était plus sous Staline, ce n'était pas du tout sous Khrushchev, et c'est seulement Brejnev qui sentait de nouveau que l'idée communiste s'essoufflait peu à peu et qu'il fallait trouver encore un appui fort dans la population, qui a fait reprendre donc ces défilés militaires. Et reprendre aussi le thème patriotique, il y avait un déferlement à l'époque aussi, ça je me souviens parce que je vivais encore en Union soviétique.
Vous êtes parti en 73.
Oui, de livres, de films, etc.
Alors sous Yeltsin, le défilé prend une forme qui n'est plus intermittente, et sous Poutine, elle permet de répondre à la question « qu'est-ce qui peut sauver un grand pays ?» par la réponse « un pouvoir autoritaire, hein, face à Napoléon, il fallait un tsar en 1812 et pareillement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors vous avez regardé la télévision, nous avons fait appel aux archives de Russia Today. Russia Today, c'est un puissant holding, hein.
C'est un puissant holding de propagande qui maintenant aussi fait des émissions en français, comme on sait, donc... mais qui est présent dans une grande partie des pays de la planète aujourd'hui.
Et le journaliste français commente le défilé du 70e anniversaire, celui de 2015, comme s'il avait à commenter le 14 juillet.
Внимание! Говорит и показывает Москва.
Ici Moscou. Nous sommes en direct sur la place Rouge. Nous allons assister au défilé militaire consacré au 70e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre pour la Patrie 1941-1945.
Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы мирно для встречи слева на краю.
Au cours de l'année qui vient de passer, les forces armées russes ont reçu en service plus de 3500 unités de matériel, notamment plus de 400 chars de combat et véhicules blindés de combat d'infanterie, 100 avions hélicoptères, 19 navires de guerre et navires auxiliaires, ainsi que quelques équipements d'armement futurs qui n'ont pas d'équivalent dans les autres pays.
Cette année, alors, on a observé jusque dans le détail, chaque progrès dans l'armement.
Bien sûr, on a montré des armements hyper sophistiqués. La seule partie qui manquait, d'ailleurs, c'était les forces aériennes, tout simplement parce que, à cause des conditions météo, cette partie du défilé militaire a été annulée.
Alors, Galia Ackermann, vous insistez aussi sur le contenu de ce qui est chanté pendant ces cérémonies. Je vous laisse présenter ce chant qui s'intitule « Guerre sacrée », vous allez mieux le dire que moi en russe, « Lève-toi, pays immense, lève-toi pour un combat à mort avec la sombre force fasciste, avec la horde maudite ». C'est le répertoire de 41, ça.
Absolument, mais c'est toujours chanté. Hein. La guerre sacrée, c'est aussi... pas chanter sans parole. En musique, c'est toujours présent pendant les défilés militaires.
Parce que mais... la musique est d'Alexandrov qui a composé l'hymne soviétique naguère.
Oui, mais le problème, non pas le problème, le fait est que pratiquement chaque soviétique, ex-soviétique russe connaissent ces paroles par cœur. Donc on n'a plus besoin de les chanter, on les a.
Ils tiendront tête aux oppresseurs de toutes nos idées ardentes, aux violeurs, aux brigands, aux tortionnaires du peuple. Lève-toi, pays immense, avec la sombre force fasciste, tu engageras un combat mortel avec la horde maudite.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
9 mai 45, comment la Seconde Guerre mondiale est-elle présentée dans le discours politique russe avec Galia Ackermann, un livre chez l'Harmattan, un livre sur lequel on reviendra plus en détail tout à l'heure aux éditions Premier Parallèle. Je voudrais qu'on s'arrête sur le mot fasciste. Fasciste.
Fasciste est un mot du lexique soviétique qui a surgi assez tôt parce que, par exemple, pendant les procès des années 30, les célèbres procès politiques qu'on a intentés aux ex-dirigeants soviétiques et aux grands maréchaux, etc., etc., en fait, Staline a décimé pratiquement toute l'élite bolchevique. On accusait systématiquement ces dirigeants et ces militaires d'être fascistes, chiens fascistes. Vous savez, le procureur Wyszynski avait un lexique extrêmement virulent. Et pendant la guerre, bien sûr, on parlait plutôt de fascistes, on ne parlait pas de nazis, parce que nazi, c'est national-socialiste, et on n'aimait pas la consonance de ça. Et après la guerre, tous ceux qui étaient en désaccord étaient automatiquement fascistes. Fasciste Tito, Tito qui était bien sûr l'un des dirigeants de la résistance en Yougoslavie, qui était l'un des plus ardents combattants contre le fascisme. Mais aussi, par exemple, en 68, pendant le printemps de Prague, on expliquait l'invasion soviétique de Tchécoslovaquie par la menace que les nazis allemands, les néo-nazis allemands, s'emparent de la Tchécoslovaquie, etc.
Il faut toujours se méfier de l'intrusion du politique dans l'histoire et même des lois mémorielles. Il y a des textes maintenant qui punissent d'amendes et davantage encore. Qui prend le parti des fascistes ? Il y a une loi de 2014. Est-ce que c'est le parti des fascistes ? Est-ce que c'est le parti des nazis ? Enfin, il est interdit de faire mention favorablement.
Oui, bien sûr. Si vous voulez, vous parlez de la Russie, n'est-ce pas?
Oui.
Bien sûr, la Russie...
J'ai juste fait un petit dérapage pour parler des lois mémorielles. Mais continuez sur la Russie.
La Russie interdit toute propagande du fascisme, du nazisme, de l'extrémisme, de la haine interethnique et raciale. Elle interdit également de porter offense à l'image de l'État russe, etc. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, les recherches historiques sont extrêmement compliquées maintenant. Non seulement que les historiens sérieux parfois n'ont pas accès même aux archives, par exemple à l'archive aux archives du FSB, mais aussi ils peuvent publier leurs livres, mais à de petits tirages, ça reste confidentiel, alors que la grande ligne historique, c'est de lisser le passé, d'en enlever, d'occulter par, de toutes les manières possibles les épisodes qui fâchent, ou les expliquer par la nécessité historique. Le ministre de la Culture, Monsieur Medinsky, a répété à plusieurs reprises, et c'est ça la ligne officielle, qu'il nous faut une histoire dont les jeunes peuvent être fiers.
Le défilé militaire est suivi par le régiment immortel. Ça, c'est une idée qui est sans doute venue de la base. Vous l'identifiez comme d'autres depuis Tomsk, en Sibérie, qui a été reprise d'en haut et qui consiste à faire défiler les civils porteurs des images de leurs ascendants disparus pendant la guerre.
Même pas nécessairement disparus. N'importe qui bon, la plupart des gens de toute façon ont disparu puisque nous sommes à 74 ans de la victoire et 79 ans depuis le début de la Grande Guerre patriotique. Parce que la Grande Guerre patriotique, c'est pas toute la guerre, c'est pas la période des accords
germano-soviétiques.
Voilà, c'est seulement quand 41. Depuis que les Allemands ont attaqué l'Union soviétique. Donc il reste très peu de témoins, très peu de survivants, et ce qu'on porte, c'est en fait tous ceux qui ont vécu grosso modo à cette époque, tous ceux qui ont combattu, qui sont morts, qui ont été blessés, qui tout simplement ont combattu, qui ont travaillé dans les champs, qui ont été enfants, qui ont été cantonnés à Leningrad pendant le blocus, etc. Donc, pratiquement, c'est la célébration de toute la génération des vainqueurs, comme on le dit, et par association d'idées, ceux qui portent leur portrait s'apparentent aussi à la génération des vainqueurs. C'est donc les morts et les vivants ensemble qui forment un régiment immortel et invincible.
C'est le titre de votre livre, je le rappelle, chez Premier Parallèle. Peut-être 10 millions de personnes, dites-vous, l'an 2018, ont participé à travers le pays à ces cortèges qui durent des heures, qui peuvent être retransmis par Russia Today pendant des heures et des heures. Et les manifestations de civils concernent aussi 80 pays et maintenant une douzaine de villes en France, dont évidemment Paris. Reportage toujours, propagande encore de Russia Today.
Alors, je suis français, j'ai 45 ans. Je suis venu aujourd'hui pour célébrer évidemment la victoire de la Seconde Guerre mondiale et avant tout pour me souvenir que c'est grâce à l'armée soviétique que cette victoire a été remportée. Et je voulais être là ici avec ma femme et mon fils aîné qui sont tous les deux russes. Mais si je me souviens que la victoire a été remportée grâce à l'Union soviétique, c'est pas simplement parce que j'ai été sensibilisé, même si évidemment je suis aussi un peu russe de cœur grâce à cette famille-là. Je cultive cette mémoire-là, à laquelle je tiens beaucoup, et je la cultive d'autant plus que nous sommes dans un contexte particulièrement, je trouve, délétère, où on nous incite à l'oublier, oui, je pense vraiment. Mais il y a des historiens très sérieux qui continuent de travailler et à faire valoir la vérité historique, bien qu'ils n'aient pas toujours, pignon sur rue.
Historien sérieux, on n'épiloguera pas sur la définition, vous en donniez une autre tout à l'heure, Galia Ackermann. Vous insistez beaucoup sur le rôle du cinéma patriotique. Il y a depuis 2004 une fondation de soutien au cinéma patriotique. Il y a depuis 2009 un conseil de développement du cinéma national présidé par Poutine lui-même et qui se substitue au ministère de la Culture pour la distribution des subventions. Et je vous propose qu'on s'arrête un instant sur un de ces nombreux films qui s'appelle La bataille de Sébastopol. La bataille de Sébastopol en Crimée, il s'agissait de défendre la flotte, de tenir le plus longtemps possible, là encore.
Absolument, la ville de Sébastopol a été extrêmement bien fortifiée, donc les Allemands avaient du mal à la prendre. Mais il y a quand même un épisode très tragique qui est associé à la fin de ce siège de Sébastopol, dont on n'aime pas se souvenir, c'est que les troupes russes ont été abandonnées, leur commandement a été évacué, mais les troupes, près de 90 000, sont restées là à mourir ou à se rendre. Et on a aussi fait exploser un énorme rocher où il y avait des entrepôts de munitions, ensemble avec des milliers de civils qui ont trouvé refuge dans ces rochers, parce que c'était important que les munitions ne soient pas reprises par l'ennemi.
Le film a pour héroïne une jeune volontaire qui va devenir tireuse d'élite, et le film a pour originalité d'avoir été conçu et tourné avant la récupération, vous allez dire l'annexion, de la Crimée par Vladimir Poutine, mais diffusé après.
On a cru que cette guerre irait vite et qu'on la gagnerait facilement, mais on a perdu du terrain! Les cadavres se comptent par milliers, et c'est bientôt les vôtres qu'on ramassera! Les vôtres!
Dans ce combat qui est le nôtre, j'ai tué 309 ennemis fashistes. Mon nom est Lyudmila Pavlichenko. J'ai 25 ans. Et je suis tireur d'élite.
Le film marche très bien dans les deux pays, comme dans cette salle de Smolensk. Alors, c'est une histoire russe ou ukrainienne ?
C'est difficile à dire, parce que maintenant on vit en Russie. À l'époque, c'était l'URSS.
Mais c'est plutôt l'Ukraine, parce que l'action se déroule aussi à Kiev et à Odessa.
C'est notre histoire commune.
Oui, c'est en Ukraine, mais Paulina a raison, c'est notre victoire à tous.
Ce film, La bataille de Sébastopol, est sorti dans une seule et même version en Russie et en Ukraine. Et je suis heureuse que si au moins pendant 2 heures on reste ensemble, on ne se déchire pas, on est ensemble.
Entre Ukrainiens et Russes.
Ouais. Il faut peut-être dire quand même que nous sommes en présence d'une militarisation absolument incroyable de la société russe, militarisation qui commence au jardin d'enfants. Et ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, Le Régiment Immortel, c'est d'avertir tout simplement, de tirer un signal d'alarme, parce que s'il y a une militarisation, il faut se demander contre qui elle est destinée et pourquoi.
Merci à vous, Galia Ackermann. Cette émission a été préparée par Alexis Ipatovstev et Frédéric Martin, à la technique Guillaume Roux. La réalisation, c'était Audrey Ripouille, chez Mathieu Vidard.
Jean, bonjour. Bonjour. Dans un instant, nous allons parler dans la tête au carré d'une très longue expérience scientifique qui dure depuis 30 ans maintenant.
Et qu'est-ce que c'est ?
On s'occupe de bactéries pour en étudier l'évolution. Et c'est tout à fait fascinant, vous allez voir.
Dans peu de minutes.